éphémère, 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 6 mai 2006, il fait beau, non il fait pas beau, il fait chaud, non il fait pas chaud. Et vous écoutez la radio? Ben oui, j'espère bien, comme tous les samedis, éphémère ouvre avec les magazines, supplément week-end, BD, cinéma, DVD, TV, puis le cahier du sport avec du gazon allemand et pas du gazon anglais pour une fois, ni de la pelouse interdite. À partir de 15h du mix, avec en mode progression, c'est du rap, 16h big band, 17h vie d'ordure, c'est du punk, 18h on est chez nous, ouais parce que là, vu comment il... Bon, il pleuviote, mais,
ouais.
Mais c'est pas la joie quand même. 20h, la CTRO expérience, je m'épargnerai un jeu de mots idiot. 21h30, Liquid Sky, c'est l'électro bien allumé, on aime bien. Et 23h, Breakbeat expérience jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, je me demande ce qu'ils font.
Ouais, on va se prendre des plaintes. On va leur demander, je pense.
Vous écoutez FMR, nous sommes en direct 89,1 MHz jusqu'à 5h du matin. Et c'est quand même la poubelle des radios.
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
Ouais, merci, tu as oublié de me laisser parler et dire peut-être que le morceau qu'on écoute c'est General Mind Fit featuring Linda Lewis, Reach Out, c'est extrait de la compilation We Are Skit. Et oui, si je dis ça, c'est pas ça.
Thank you.
Bah, c'était Mindfin General featuring Linda Lewis, donc en introduction de Supplément Weekend. Reach Out, c'est extrait de la compilation We Are Skint, le label qui est quand même sur lequel on trouve pas mal de monde qui explose en général. J'aime bien, j'ai pas le CD sous la main. Du sport, ça va ?
On dirait Messi Gray là, hein. Franchement. Là,
ah ouais, c'est impressionnant.
Ça ressemble vachement. Hein.
Ça le fait pas mal. Hein. Et vous savez quand même qu'on est l'émission aujourd'hui, l'émission numéro 69.
Eh oui.
Eh oui.
Ça... Et qui dit émission 69 dit. Les rôles sont inversés.
Ouais, ça te fait pas.
C'est moi qui suis du côté obscur, comme dit du sport, derrière le micro noir de
du réalisateur.
Réalisateur,
ouais. Ah non, regarde la fiche d'émission, là, la belle fiche, là, il y a marqué réalisateur Thomas.
Ouais, ben je vais l'encadrer, tu vois, celui-là.
Et du coup, c'est moi qui mitraille de photos. Voilà.
Alors pour nos amis auditeurs qui n'ont pas la couleur, eh bien, vous pourrez retrouver les photos faites par Xavier sur le site de l'émission. Xavier, je te laisse donner les références.
Vous allez. Oh, on l'a répété tout à l'heure. Vous allez sur le site internet de la radio, www.radio-fm1.net. Vous cherchez les émissions du samedi et donc normalement Supplément Week-end où il y a un lien supplémentaire vers la nouvelle émission. Sinon, vous allez directement sur mon site perso où là il y a toutes les émissions sont à réécouter d'ailleurs. C'est www.dascritch.net. Voilà, dascritch.net. D-A-S-C-R-I-T-C-H.net.
Autre chose pour comme nom.
Jongle pas pendant que tu es en train de cahier mes CD, toi. Ceci dit, Supplément Week-end, on a fait 4 émissions absolument énormes pendant le mois d'avril. Pendant le mois de mai, normalement, on a nos amis des 3 petits pois qui devaient passer pour faire des petites chroniques culinaires. On les attend toujours, donc je pense que c'est un peu loupé pour cette émission. Et hier a été, j'ai pris un peu les nouvelles du front. Je peux vous dire que Supplément Week-end risque de bouger pas mal puisqu'il y aura le Printemps des Libertés qui aura lieu à Tournefeuille dans 15 jours, qu'on risque de faire une émission là-bas. C'est sur l'intégration, sur les lois d'immigration et tout ça, hein. Immigration choisie, voulue ou non voulue ou forcée. On risque d'avoir des invités, on risque de faire sur place, et ainsi que pour le 27, le congrès au Mix Armiris des associations et collectifs de créateurs, de performeurs. Et heureusement, Thomas ne sera pas à la réalisation parce que je sais pas comment on va se démerder.
Ça fait tout drôle de te voir de l'autre côté du micro là-bas. Alors, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire.
Monte un peu ta voix. Oui, vas-y.
Voilà,
c'est un peu mieux. Ouais,
voilà, merci. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Bien, continue ton babillard, vas-y.
Oui, tu veux que je refasse?
Non, parce que vous savez pas ce que c'est de côtoyer l'énergumène tous les jours. C'est mais vous imaginez pas le nombre de personnes des fois, même dans le métro, quand vous avez envie de vous reposer, c'est... Ah, ça fait du bien. Non, excuse-moi, c'était pour le sketch. Je m'étais toujours dit, si j'avais les moyens, j'allais le faire. Donc voilà, je te laisse parler.
Tout ça, c'est parce qu'il est fan Thierry Ardisson, donc il se retrouve en régie. Je tiens à signaler que du sport, que la bonne réponse, c'était Joseph Serre. J'étais content de l'avoir trouvé.
Ouais.
Alors
ouais,
on va rappeler
même
que...
15 jours, ouais. Il nous a fallu. Hein.
Oui, c'est vrai, on n'est pas fiers.
15 jours.
Bon, on va entamer les BD parce qu'il est midi et 10 minutes et que sinon, on va être coincé pour la publicité. On va commencer avec une très bonne saga scénarisée par Joe Quesada et dessinée par Robert Teranishi. Il s'agit de Nikes NYX, le tome 2 qui conclut en fait, c'est la fin, vient de sortir dans la collection Marvel Graphic Novel, traduit en France chez Marvel France Panini Comics. Et à la fin de la première partie, on les avait laissées sur le carreau. Elles sont là, 4 à galérer dans les rues de NYX. NI pour la grande pomme, sauf que d'habitude en anglais on dit NIC, sauf que X ça veut dire NIX, ça veut dire tout simplement sans abri.
Sauf que Y c'est Y, c'est pas I.
Ouais, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Donc elles sont 4 à galérer, dont une prof qui se demande ce qu'elle a à voir avec les adolescentes en pleine crise de pouvoir mutant. Kaiden est une fille jetée dans la rue, non seulement par envie de fuir sa famille monoparentale et l'incroyable violence présente dans son lycée, mais surtout parce qu'elle a été complètement désarçonnée par son pouvoir. Celui de geler le temps sous le coup de la colère et le fantôme de son père qui la hante, mais celui qui la guide dans les situations difficiles. Après un an de fugue dans la vie d'une de ses anciennes profs, elle va entrer finalement chez sa prof et va l'entraîner dans une fuite sanglante absolument... Elle est complètement larguée. Tatiana, elle, a une vie presque bien puisqu'elle était heureuse avec nos amis, les animaux. Mais sous le coup de la colère, elle se transforme désormais en chat de cauchemar ou en klebs de l'enfer. Quant à la dernière fille, taciturne, look gothique, c'est une fille qui bat le pavé, qui a un énorme succès auprès de garçons en manque de sensations fortes, adorant de se faire griffer par une espèce de furie manière Wolverine. Vous savez, snicked. Et elle a décidé de lâcher sa vie de pute parce qu'elle en avait marre. Malheureusement pour cette dernière, son Mac est destiné à ne pas la lâcher. Et pour cela, il a les armes et les petites frappes. Et un felon qui sait parler des fuites éperdues qui souffle dans cette seconde partie de son dénouement. Fin de cette mini-série qui nous avait bien bluffé, un scénario ancré dans le réel qui minimise les super-pouvoirs face à la violence physique et sociale de la rue. Un scénario très noir et désespéré, le tout balancé par un dessin proche de la Japanimation pour bien nous faire oublier qu'on est dans l'univers des X-Men. Mais si, vous savez, dans les années disco, la fin des années 70, les mutants du professeur Charles Xavier crapahutés en moule burne bleu nuit à rayures jaune pétard. Bon, allez, un petit caméo. Rien que pour rire, le dessinateur se fait plaisir. Le chef d'un gang de petites frappes a les traits d'un ancien mauvais garçon de rue de New York. Je vous aide, c'est un cascadeur, acteur d'action et qui porte le nom d'un carburant que j'utiliserai jamais comme cocktail Molotov.
Vin Diesel !
Ouais, gagné ! Quant aux fights finaux, Terra Nishi, le dessinateur, s'est permis de faire des plans arrêtés aussi fouillés que ceux de Geoff Darrow. Et là, quand même, c'est pas évident, donc ça veut dire quand même il essaie de bien maîtriser son art, et entre nous, bah tant mieux. NYX, le tome 2 sur 2, c'est Joe Quesada au scénario, Robert Terra Nishi au dessin, c'est chez Marvel France, collection Panini Comics. Alessandro Bilotta au scénario et Carmine Di Giandomenico au dessin. C'est Romano, c'est une nouvelle trilogie qui vient de sortir dans la collection Equinox chez Vent d'Ouest. Un premier tome sur trois et cela s'appelle Un automne de 10 secondes. L'Italie de l'après-guerre est dans ses petits souliers. Dans les années 40, la grande botte se remet péniblement du règne de 20 ans de son Duce. Non, il a pas fait autant, hein, l'autre fou Berlusconi. Non, je déconne. Pourtant, Mussolini n'a heureusement pas complètement suivi les délires de son comparse allemand. Mais quand même, l'Italie est occupée par les alliés, surtout par les Américains, et il est dur de s'en sortir dans une démocratie qui tente péniblement de reprendre pied. Qui sait si les communistes ne vont pas faire une guerre civile pour rejoindre Staline, le petit père des peuples. Hein, Pépone, on va se calmer peut-être. C'est dans cette époque où rien n'est sûr que commence cette histoire, celle de Romano, un jeune gars un peu magouilleur qui vit de petites rapines dans une robe miséreuse, rêvant d'une vie meilleure de l'autre côté de l'océan. Et Romano va se faire rattraper par un prêtre un peu particulier, car en plus de ses offices, ce dernier tient une salle de sport en tant qu'ancien champion du noble art. Mais pour Romano, est-il sûr qu'il va vivre de combats de boxe ? Vaut-il mieux continuer à magouiller, plonger dans la mafia ? Bon, son choix, il se le voit repasser dans sa petite tête, bien cabossé pendant les 10 secondes qu'égrène un arbitre avant d'annoncer son chaos. La vie de Romano n'est pas qu'un combat sur le ring, mais surtout un combat pour la vie. Et les deux auteurs de cet album rendent magnifiquement l'ambiance de l'époque. Alessandro Bilotta est un scénariste italien qui a fait pas mal bouger le 9e art de l'autre côté des Alpes. Il a commencé à tirer la langue sur les Martin Mystère avant de cofonder l'éditeur indépendant Montego. Il travaille principalement avec le dessinateur Di Giandomenico qui a commencé Ouais, c'était pas évident, hein. On a répété 8 fois, hein, quand même avant. Qui a commencé pour Marvel Italia avant de faire des petits cours d'ailleurs pour Marvel, mais a réalisé des storyboards pour Martin Scorsese. Ah, tiens, encore un Rital d'Amérique. Et Tsuark, s'il vous plaît.
Qui est pas pareil.
Ouais, c'est pas pareil. Alessandro Bilotta et Carmine Di Giandomenico. Romano, tome 1 sur 3, un automne de 10 secondes, c'est dans la collection Equinox chez Vent d'Ouest. C'est un fumo de China de boxe, donc je pensais que du sport, lui, il allait se précipiter dessus. Hein. Si ? Ouais, Romain. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, il est 12h16 et 35 secondes, et ça fait bizarre ce qu'on retrouvait côté animateur et pas côté réalisateur dans sa propre émission.
Ouais, c'est qu'en fait... mais attends, parce qu'il est en train de mixer mieux que toi là alors.
Non, c'est pas vrai ça. Non, par contre, c'est vrai que je pense que tu as l'air d'être en vacances là.
Ouais, ouais, mais pourtant là, je vous emmène dans la science-fiction avec une bande dessinée qui a un joli sticker d'une chaîne du câble. Ça s'appelle Orbital, c'est dessiné par Sylvain Runberg et des dessins de Serge Pelé. Donc la série s'appelle Orbital, le premier tome de cette série s'appelle Cicatrice, c'est dans la collection Repérage chez Dupuis. Et ça se passe en 2278, où la Terre a enfin l'opportunité d'intégrer la Confédération Galactique. Car, oui, l'humain n'est pas la seule race intelligente. Et oui, les extraterrestres veulent bien associer les hommes à leur destinée. Bon, c'est malheureusement pas l'avis de certains hommes qui firent des dizaines de milliers de morts en faisant exploser un congrès électoral en faveur de l'intégration. Ah ben oui, un missile est si vite lancé sur un stade en liesse. De l'eau a passé sous la voie lactée depuis cet ignoble attentat. Et la Terre, ayant intégré la Confédération, a eu le malheur de se faire une très mauvaise réputation. Des pionniers en quête d'espace vierge ont quasiment fait disparaître les Sanjar, une des 782 espèces sociétaires. L'Office diplomatique intermondial, un sort de médiateur intergalactique, a décidé de donner une chance aux humains, en y intégrant Caleb dans ses rangs. Et ce dernier doit faire équipe avec Nezoke, un ou une des Sanjar survivants, déjà son sexe n'est pas sûr, ah. Un binôme qui part sur un mauvais pied, mais qui devra faire preuve qu'ils peuvent travailler en très bonne intelligence, malgré l'hostilité affichée des autres membres de l'ODI, merci les camarades. Leur première mission les mène sur Uppsal, où les pionniers terriens posent de sérieux problèmes avec la population locale. Encore une belle situation où l'on marche délicatement sur les œufs d'aliens. Il y a des choses à dire sur le dessin de Serge Pelé. On sent immédiatement les influences de Jean-Claude Mézières, Valérian et Laureline, et de Philippe Boucher, Sillage, pour les bouilles d'extraterrestres, de Moebius, Lincal, dans les architectures, et de Juan Jiménez, la case Métabaron, pour les vaisseaux spatiaux. Et pourtant, il réussit à être très original et prenant. Il est en fait pas loin de s'imposer vu son travail qui est impressionnant sur la manière de se fondre, de rendre une atmosphère ou une ambiance. Déjà le scénario de la série donne sérieusement envie de s'accrocher. Là, on sait qu'on va suivre avec passion cette révélation. Et ça tombe extrêmement bien car cet album parle de tolérance au-delà des haines passées, où la négociation prime sur l'action. Est-ce pas finalement un sujet d'actualité ? Sylvain Runberg et Serge Pelé, le tome 1 de Orbital s'appelle Cicatrice et vient de sortir dans la collection Repérage chez Dupuis. Tu me fais l'enchaînement, oui.
Eh oh, on peut respirer, non?
Alors je vous explique, c'est la première fois qu'on va réaliser une émission où Thomas, tu sélectionnes un des boutons de pré-écoute de la banque à gauche, n'importe lequel, parce que je vais chroniquer le dernier Enki Bilal, et toi aussi tu l'as acheté et tu l'as pas encore lu. Donc,
oui, alors je l'ai pas lu, mais non, ouais, bon allez, je vais me faire un peu comme dans la boum, tu vois, j'écoute une autre musique. Alors attends.
Il va y arriver, j'espère. Enki Bilal, donc le monstre tome 3 sur 4 vient de sortir dans la l'album s'appelle Rendez-vous à Paris, c'est chez Casterman. Et plusieurs changements quand même sont à annoncer pour cette série très attendue. Enki Bilal est passé d'un cycle annoncé en 3 à 4 tomes et il a changé d'éditeur. Fini les 20 années publiées chez Humanoïdes Associés. Bon, c'est pas ça qui importe, mais la très belle qualité de restitution de l'album dans la lignée des précédents. La tétralogie du monstre est un tournage très important dans le travail d'Enki Bilal. Il a conçu son scénario sur plusieurs tomes, à la différence de la trilogie Nicopol, qui en fait est une suite de one-shot qu'il a raccroché au premier album, et aussi sur la méthode graphique, puisque chaque dessin, chaque vignette est une peinture faite indépendamment, qu'il a assemblée et mise en maquette sur ordinateur. Et en plus, on oublie un peu souvent de le dire, mais Enki Bilal est un très bon cinéaste, et actuellement il y a ces trois films qui passent sur une chaîne du câble Ciné BFX pour ceux qui sont abonnés, donc
même,
ça tombe bien.
Même si on peut avoir des réserves sur les qualités artistiques de ces films, hein.
Ouais, quand même.
Bon, je ne suis pas d'accord pour les moyens qu'il a quand même.
Ah, ils étaient intéressants, mais après on discutera de ses choix esthétiques par contre, hein.
Ouais, sinon on va déborder. Bon, qu'on oublie ces détails bassement techniques pour s'intéresser à l'histoire. Le thème très fort reste l'identité en cours de destruction des trois personnages principaux, notamment de Nike, orphelin né en 93 dans un hôpital bombardé de Sarajevo, à deux pas de Sniper Alley. un personnage exceptionnel doué d'une mémoire totale et qui se souvient même de ses premiers jours où déjà il avait rencontré à quelques pas de son berceau Amir et Leïla, ses frères et sœurs d'infortune dans cette tétralogie. Mais en 2026, après le sommeil du monstre, le jour du 32 décembre, le démon Optus Warhol dupliquait les hommes et s'en servait comme bombe humaine à la cause de sa secte maudite. Warhol s'est mué en Holwar, artiste contemporain non moins cinglé dont la démarche artistique passe par la destruction abdutre et meurtrière. N'empêche que c'est de l'art et que là, on ne peut juger ça devant un tribunal, mais uniquement dans les magazines spécialisés. Face à cette débauche de massacre, le lecteur poursuit comme il peut les trois personnages principaux, Nike, Amir et Leïla, qui ont fui la Sibérie et semblent s'être donné rendez-vous à Paris. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait plus si l'on suit les trois protagonistes du début ou un de leurs multiples clones. Déjà qu'il était fortement affecté par le retour du 32 décembre, au gré des duplications, de leur identité se dilue au fur et à mesure. Non, l'important c'est qu'ils ont rendez-vous à Paris et qu'ils vont tout faire pour ne pas la manquer. Et que le périple des trois passe par Belgrade, capitale d'un état oublié de tous, la Yougoslavie. Un état dont on a oublié sur quelle idée de communauté de race, de langue ou de religion il a pu être formé. Une utopie, quoi. Une identité dissoute dans l'histoire. Inky Bilal, le monstre, tome 3 sur 4, vient de sortir. Rendez-vous à Paris, c'est chez Casterman. Du sport est en train de s'étirer. Thomas se remet en place. Et je suis repassé du côté obscur. Ah, ça fait du bien, tiens.
Ouais. À nouveau en vacances. Ah non, merde, c'est à moi de chroniquer maintenant.
Oui, pas de bol. Bon, allez, on prend le temps de se remettre. Enfin, toi, de te remettre. Parce que je suppose que ça a eu ta montée quand même pendant le mix. Donc, on va passer un petit morceau. Garbage, Milk, un mix, Massive Attack D-Mix, et après on enchaînera sur la pub. Yeah. Oui, la régie finale, oui, je sais. Et 12h29 et 4 secondes, on n'aura pas le temps de commencer une chronique, vous allez nous couper brutalement et tout. Non, mais je m'en fous, allez-y, envoyez les pubs. En plus, je crois qu'il y a un gros truc ce soir, donc allez-y, ça nous mettra dans l'ambiance en plus pour Hong Kong.
Vous rêvez de partir en voyage dans un pays lointain et mystérieux, un pays céleste? La brume se lève sur le fleuve Mekong. Êtes-vous au Vietnam? Le vent caresse les feuilles de lotus, les bambous frémissent. Êtes-vous en Chine? Oui, vous êtes au cœur des arts martiaux traditionnels. À travers 24 mises en scène spectaculaires. Le combat de tigre, du dragon et de l'aigle, la boxe de la menthe religieuse, le duel de la hache et du double sabre, et bien d'autres encore. Les maîtres et les élèves de l'école Oulong Chen parlent de leurs plus beaux costumes. Dans un spectacle son et lumière de haute qualité, vont vous éblouir et vous transporter dans l'univers de l'Asie éternelle. Partez avec nous le 6 mai à 20h30, salle des fêtes de Gaillac, réservation 05 63 58 13 00, je répète 05 63 58 13 00.
Tout ce qui passe.
À tous les enfants qui sont obéissants.
Tous les mercredis, de minuit à 2h. Le toit dans la morve. Radio FMA.
C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Éphémère.
89.1.
Mais à coup de pas, c'est moi cette fois-ci qui me suis planté.
Bah ça arrive même au meilleur.
Eh ouais, comme quoi. Thomas, on avait dit... Êtes-vous en Chine?
Eh bien, presque. Ben maintenant, on est en Chine, oui, puisqu'avant, on était à Hong Kong. Là, j'ai deux DVD asiatiques, puisqu'on parlait la semaine dernière de HK, l'aventure HK et HK Magazine. Eh bien là, j'ai un beau fleuron qui vient de sortir. C'est le dernier volet de Polystory, même si ça n'est pas vraiment un. C'est New Polystory avec Jackie Chan, édité chez HK Vidéo. Et c'est un film de Benny Chan avec toujours le vieux Jackie qui maintenant, il a 45 berges, même plus. Hein,
oh, plus, non. Il a la cinquantaine, me semble-t-il. Eh ben, tranquille. Hein.
Eh ben, on dirait pas. Il y a aussi Nicolas Tse et Charlie Young. On reviendra aussi sur ces noms qui peut-être ne vous sont pas inconnus. Le film est disponible en coffret 2 DVD, donc c'est un truc super joli, en boîte en métal, avec un livret en papier glacé à l'intérieur. Bon, de toute façon, quand vous achetez du DVD HK, vous savez très bien que vous en aurez pour votre argent, donc c'est super joli. Au moins, si le film est merdique, au moins vous avez le packaging.
Il coûte combien celui-là ?
Et il a coûté 25 euros, je crois.
25 euros, bon, ben ça va encore. Ouf. Ah non, c'est un bel objet, hein.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai que tu
peux
facilement.
Ouais.
C'est vrai que tu peux facilement le revendre.
Ça veut dire que tu voudrais le toucher, peut-être. Tiens, vas-y.
Non, mais j'ai déjà touché. J'ai déjà ouvert et tout. quand tu n'étais pas là.
Ah d'accord.
Ouais.
Trop confiant, l'inspecteur Wing. Voilà ce qui arrive quand on promet d'arrêter les ennemis publics numéro 1 dans les 3 heures en direct à la télévision. Les truands relèvent le défi, évidemment, massacrent l'équipe de l'inspecteur, l'humilie et le précipite dans une année de déchéance et d'alcoolisme. Aidé par un jeune policier qui s'est fait un point d'honneur à recoller les miettes de sa vie, Wing va tenter de se racheter une dignité, coffrer les meurtriers et épouser enfin sa promise, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une fille dans l'eau, même s'il n'y en a pas beaucoup. Alors, ce à quoi on n'était pas habitué avec Jackie Chan, c'est, déjà il est vieux, mais surtout, il a un côté vachement maso dans le film. On le voit pleurer, il se prend des nions, mais il se fait tabasser la gueule. Alors bon, c'était son style avant, c'était pas Van Damme qui...
Mais dans le précédent Police Story, c'était pas tout à fait la même chose, mais enfin, il y avait également cette espèce de thématique où c'était un Jackie Chan qui n'avait rien à voir avec les Jackie Chan auxquels on est habitué. Ah oui, il mélange toujours la comédie, enfin, c'est son credo de toute façon, c'est mélanger la comédie et l'action, sans violence, sans rien. Alors que dans les Police Story, dans le New Police Story, il y a de la violence et ça charcle. Et Jackie Chan, en fait, n'a pas un rôle vraiment rigolo, quoi.
C'est pas la première fois qu'il a pas un rôle très rigolo.
Lui c'est le mec qui veut faire des films que les enfants puissent regarder, quoi. Donc New Police Story et Police Story, c'est pas tellement des films pour les enfants, non, on va dire.
Et c'est vrai que ça se rapprochait, cet épisode se rapprocherait plus de Crime Story qu'il avait fait dirigé par Kirk Kong, où il avait que 10% de scènes de comédie et tout le reste c'était un polar extrêmement nerveux où il était dans les flammes et tout. Et là dans ce film il vomit aussi en direct devant la caméra. C'est le mec qui s'en prend plein la gueule, c'est une épave, il finit en épave. Et en fait, c'est comme s'il avait voulu faire payer à son corps ses errements aux USA, tu vois.
J'ai filmé des merdes.
Voilà, et puis maintenant.
C'est la rédemption.
Voilà, acceptez-moi, regardez, j'en prends plein la gueule. Et il y a aussi une évolution dans les malfrats aussi, puisque d'habitude c'est toujours des patrons ou des triades et tout. Et là, c'est juste une bande de jeunes qui a désœuvré, qui a rien à faire de leur vie. Ils ont les cheveux colorés, ils sont adeptes des sports extrêmes, ils maîtrisent les nouvelles technologies. Je parlais tout à l'heure du fait qu'ils massacrent l'équipe de l'inspecteur, ils en font même un jeu vidéo au cours du film, et ils mettent aussi des indices là-dedans pour que les flics leur courent après, justement. Ils mettent une tôle à Jackie Chan au début dans un combat, un contre un en baston, mais lui se prend sa race. voilà. Et alors, ce qu'il y a de frappant aussi, c'est que un univers foutraque avec des couleurs de partout, des gens qui s'agitent dans tous les sens. Ça t'appelle pas un mec hongkongais qu'on a nommé tout à l'heure, qui s'appellerait Chuark, par exemple.
Chuark, ouais.
Voilà. Et alors, c'est marrant parce qu'ils reprennent même ces acteurs. Charlie Young, on l'avait vu dans The Lovers de Chuark, Nicolas Tse, Time and Tide, et puis et puis plein d'autres films. Et il y a aussi une apparition en caméo de Mubai qui jouait aussi dans Time and Tide et qui joue. Ça fait partie des révélations à la fin du film, donc on dira pas ce qu'il joue, mais il fait une petite caméo dedans. Alors vous allez me dire, mais c'est pas Jackie Chan qui est derrière la caméra cette fois, c'est Benny Chan. Bon, aucun lien de parenté. Mais alors c'est marrant parce que dans les scènes de comédie où il y a les acteurs qui doivent pleurer, donner des émotions, on voit Benny Chan qui est en train de les diriger dans le making of. Quand c'est les scènes d'action, c'est plus Benny Chan, c'est Jackie Chan avec son haut-parleur. Dégagez la voix. Merde, il y a le bus qui s'est retourné. Continue à tourner.
C'est marqué en direction des cascades Jackie Chan, Lee Chung Chi et le JC Stunt Team. JC. Jackie Chan.
Ouais.
Ouais.
Alors, ouais. Alors on en vient aux cascades, et il a un peu perdu. Effectivement, les combats sont moins rapides, ça virevolte moins, ça dure moins surtout. Mais quand même, t'as une cascade, une descente en rappel long d'un immeuble. Les immeubles à Hong Kong, ils sont gros, ils sont hauts. Hein. Et là, c'est le long d'une corde. Alors il y a les brigands qui descendent avec un VTT. Il y a Jackie Chan, bon lui il a pas de VTT donc il descend suspendu à des menottes. Et son assistant il descend suspendu à une matraque. Alors t'as les trois, t'as des plans faramineux où tu vois les trois poursuivants qui sont sur la façade de l'immeuble à verticale à 90 degrés. C'est en plus dans le making of, tu vois, qui est super impressionnant et super instructif. C'est juste un bout à bout de 50 minutes de toutes les scènes de préparation des cascades et il n'y a pas de commentaires et pas d'interview. C'est juste du bout à bout et tu te dis, ils sont vraiment barges là-bas quand même. Voilà, donc dans ce DVD, vous avez le petit livret en papier glacé qui est très instructif, qui rappelle, oui, Jackie Chan, il est allé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait là, son sentiment par rapport à son retour à Hong Kong, un making-of, je le disais, bout à bout, et puis aussi quelques interviews un peu promo, mais on sent bien que c'est pas quand même les États-Unis, et puis t'en apprends quand même, c'est assez sympa. New Police Story chez HK Vidéo, un film de Benny Chan avec Jackie Chan, le grand retour du vieux Jackie. Autre DVD, PTU de Johnito. Alors là, ce n'est plus chez HK Vidéo.
C'est pas CTU, j'espère.
Non, c'est PTU, c'est Police Tactical Unit. Et c'est chez Asian Star, la collection de DVD de Jean-Pierre Dionnet. Alors cette fois, c'est... Bon, alors Johnito, on en avait parlé, puisqu'il avait sorti Breaking News, et puis on s'était un peu frité
Infernal
aussi.
Infernal Affair.
Infernal Affair. Non, ça c'est Andrew Lou. Johnito, il a fait...
Et Johnito.
Non, il n'a pas collaboré sur Infernal Affair. Il a fait Breaking News, il a fait The Mission, il a fait Heroic Trio, mais il n'avait pas collaboré sur Infernal Affair. Peut-être qu'il a réalisé une préquelle ou le numéro 3, par contre.
Il me semble qu'il est impliqué un petit peu, quoi.
Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors déjà, c'est un film qui avait eu le prix du jury au Festival de Cognac 2004. Alors ce film est très atypique, puisque en fait, pour les besoins de l'histoire, ça se passe dans un Hong Kong de nuit et désert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Hong Kong, y a tout qui est ouvert tout le temps, à part le dimanche soir, entre 2h et 6h du matin. Ces barges, ils ont voulu absolument avoir des scènes désertes. Ils ont tourné pendant 3 ans, tous les dimanches, entre 2h et 6h du matin. Genre les acteurs ils se retrouvaient pour 4 heures pour faire des petites séquences. Allez, bon, à la semaine prochaine. Et puis 3 ans après, le film sortait. Et tu vois, dans le making of, il y a Johnito, il dit bon, alors pour cette fois, bon, j'ai fait des comédies sentimentales qui ont bien rapporté, des films commerciaux et tout. Là, j'ai dit à mon producteur bon, vous me laissez entière liberté sur dépassement budget, sur les sous et tout, mais en retour je m'engage à vous livrer un bon film.
Ouais, mais dépassement de budget, c'est monnaie courante, hein.
Oui. Et puis bon, les producteurs, ils préfèrent avoir un film qui marche plutôt qu'un bon film, généralement. Alors ça raconte quoi? C'est donc dans un Hong Kong désert de nuit, l'inspecteur Sai de la brigade anti-gang se fait voler son arme suite à une altercation avec une bande de délinquants. Il n'a que quelques heures pour la retrouver avant de être obligé de déposer une déclaration de perte qui lui vaudrait peut-être un blâme et une rétrogradation. Ses hommes vont l'aider, n'hésitant pas à questionner très énergiquement. Des indices pour obtenir des infos, sans compter sur les flics à côté qui enquêtent, parce qu'il faut savoir que PTU, la PTU, c'est un peu comme les gendarmes ici. Il y a bisbille entre les policiers et les gendarmes. Là-bas, c'est pareil. Ouais, c'est à nous l'enquête. Non, c'est à moi. Il y a le mec, il y a à un moment donné un macabre, il y a son téléphone qui sonne. Donc, l'inspecteur, il va échanger son propre téléphone contre l'autre pour être en contact avec les commanditaires du meurtre. Enfin, c'est magouille et compagnie. Et le héros, justement, c'est le gros qui jouait dans The Mission, le spécialiste en armes, Lam Suet, qui est un peu l'acteur fétiche. Là, il a une moustache. Bon, il est carrément exploité pour son côté humoristique, mais bon, il est assez pato, hein. Il a une bonne bouille, voilà. Et on a aussi Simon Yam, qui est aussi un autre acteur fétiche de Johnito. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de façon, dans le DVD, il y a Jean-Pierre Dionnet qui parle justement des conditions de tournage, et il dit aussi que ce qu'on a beaucoup reproché à Johnito dans ses films, c'est que l'image, au niveau des acteurs, au niveau de l'image, c'était nickel, mais c'était la musique en fait qui pêchait. Et là, il dit là il a trouvé son compositeur. Il fait une bande son assez atypique, faite de guitare électrique assez haut perché. Personnellement, j'ai trouvé ça insupportable. Je trouve que ça nie complètement l'ambiance. Je trouve que Ah ouais, mais c'est ça. En plus, une mélodie, tu sais pas trop si c'est comique ou quoi que ce soit. Surtout que les images, elles sont assez hallucinantes. Toujours Johnny Toss, et il privilégie les moments en creux, les moments d'attente. Les mecs, ils mettent trois plombes pour faire trois pas dans une rue déserte. Tu sais forcément qu'ils vont se faire canarder. Mais c'est un peu comme Léon, il s'attarde un peu sur les côtés, enfin sur les moments où il n'y a pas de flingage. Tout ça pour que ça explose à la fin. Et là, la bande son, bon, c'est insupportable, quoi. Ça dynamite tout. Enfin, bon, ça, c'est comme mon avis personnel. L'autre côté, enfin, comme moi j'étais un peu déçu, c'est que je m'attendais à quelque chose à autre chose en fait. Mmh. Je m'attendais à quelque chose de plus viscéral. Et là, je pense que là où Johnny Toe est intéressant, c'est qu'il est jamais là où on l'attend et il nous livre toujours autre chose que ce qu'on attend. Dans The Mission, il y avait des scènes de flingage qui étaient bien, mais le reste du temps, c'était des moments de comédie à la Kitano complètement décalés. Même les séquences de flingage, il passait trois plombes à attendre, immobile, et puis après tout d'un coup, il y avait un petit qui partait. C'est assez déconcertant, et là c'est pareil. Alors bon, là au final on n'a pas les gunfights aussi faramineuses que dans The Mission ou dans ces autres films où le plan séquence de Breaking News, tu sais, au début.
Bon, truc de ouf.
Ça reste quand même intéressant pour l'aventure du tournage, et puis voilà. Côté bonus, la présentation du film par Jean-Pierre Dionnet vaut 100% de cacahuètes. Voilà. Et tu.
De popcorn, on parle de cinéma.
DVD.
Ah oui.
Voilà, et t'as aussi les interviews des deux acteurs principaux et du réalisateur. Voilà. Il s'agit de Police Tactical Unit PTU de Johnny Toe qui vient de sortir chez Asian Star. Je finirai par une petite perle.
Ah, si je m'as dit surprise hein, sur le planning.
Oui. Ah oui, ouais, une perle surprise, ouais. Parce que les gens vont être surpris si... Ouais, je vais vous dire. Je suis tombé sur le net sur une info croustillante, c'est-à-dire que il y a eu un DVD qui est sorti cette semaine. Vous le trouverez pas dans les magasins vendeurs de DVD habituels. Il s'agit de The Game de David Fincher. Alors vous allez me dire, bon, il pète les plombs, Thomas, qu'est-ce qu'il dit, le film est sorti, ça fait des années maintenant, où est l'actualité là-dedans? L'actualité, c'est que vous allez le trouver cette semaine dans la nouvelle formule de Télé 7 jours qui met un DVD à l'intérieur. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas intéressant.
Ouais, c'est la guéguerre avec Téléstar, voilà. Ouais.
Et le truc intéressant, c'est que, bon, il y en a plein de magazines qui font ça maintenant.
Ouais, Télérama, est-ce qu'il va mettre peut-être un dessin animé japonais?
Ah. Oui, bah, encore une privée joke. Alors, il fallait écouter l'émission de la semaine dernière pour comprendre. Alors l'intérêt de ce DVD, c'est que, en fait, c'est édité chez Universal. Alors l'intérêt, c'est pas le film. Bon, le film, Fincher, il a fait mieux avec Seven et surtout Fight Club. Bon,
oui, c'est clair.
Bah, c'est quand même un film mineur. L'intérêt, c'est que la jaquette non plus. Bon, vous regardez, vous dites, ouais, le film et puis les sous-titres, les chapitrages. Sauf que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas du tout ce qu'il y a à voir avec la jaquette. C'est que Universal, ils sont plantés. Ils ont mis l'édition belge avec les bonus inédits en France à l'intérieur de ce truc. Vous l'avez à 5,90€ avec le Télé 7 jours, une édition qui n'a jamais été possible de trouver en France. Dans les bonus, vous avez commentaires de David Fincher, de Michael Douglas, quand on sait que David Fincher, il a aucune langue de bois jamais, donc ça va être intéressant. Les coulisses du tournage, les séquences tournées en extérieur, les bandes annonces, la fin alternative et la création des décors. 5,90€ avec Télé 7 jours. Pour une édition, Universal s'est planté.
Bravo. Alors, bravo. Et ça y est pas dans l'édition américaine, ça vient d'où en fait? Pourquoi ça n'a pas été dans l'édition française? Problème de droit ou problème d'image?
Je sais pas, peut-être que ce sont des. Ou alors ce sont des making-of qui ont été. Des bonus qui ont été achetés que seulement par les Belges, ou des problèmes de droit, ou alors ce sont des bonus qui ont été faits par les Belges aussi, peut-être.
Ouais,
une interview exclusive de Fincher. Je l'ai pas encore vu, je vous dirai peut-être avec plus de précision la prochaine fois.
Si tu peux l'annoncer assez vite sur le site web, parce que Télé 7 jours, il va pas être en vente très longtemps quoi.
C'est vrai. Et alors, bon, je vais citer ma source, puisque c'est par hasard que j'ai vu ça sur le net. Je l'ai réservé direct en rentrant chez moi. Bon, alors, c'est sur dvdrama.com que j'ai vu ça. Vous pouvez voir, il y a une quantité de news. J'ai même appris qu'il y avait un Star Wars numéro 7 qui a été en préparation. Et une réédition de la trilogie classique de Star Wars. Pourquoi elle arrive maintenant? On va se dire, George Lucas écoute enfin ses fans. Non, non, c'est qu'il y a juste que le DVD est passé de mode et qu'il va y avoir bientôt le DVD Blu-ray et le DVD HD, voilà. Donc le mec, il dit, ouais, sinon je vais vous contenter, mais bon, ça sert à rien que vous l'achetiez, parce que dans un an, avec le nouveau DVD qui va arriver, vous aurez encore la nouvelle édition retouchée par mes souhaits.
Ouais, il avait fait le même coup pour la VHS.
Exactement.
Il avait fait exactement le même coup pour la VHS, donc voilà. Mais ceci dit, DVD Rama, attention, parce qu'il y a pas mal d'approximations hein, sur le site. C'est assez flagrant.
On va pas faire de pub non plus pour le site, mais c'est vrai que quand au lieu de mettre 25 euros en aveugle sur un DVD d'un film que vous aimez bien, c'est bien d'aller voir sur ce site parce qu'ils chroniquent aussi la pertinence des bonus. Ils disent ouais, là c'est promo, là ça vaut pas le coup, etc.
C'est vrai que c'est pas mal. Supplément week-end, midi, 47 minutes et 40 secondes. Du sport va prendre la suite après. Oh, DAT Politics. Moi j'adore ce groupe. Yes. DAT Politics, extrait de leur dernier album qui s'appelle, je soulève ma feuille, Wave Twist, attends, c'est mal, wow, Twist, j'ai mal écrit, voilà, Viper Ice, et il est en prog lourde sur radio depuis maintenant 15 jours, et en attendant, on s'en fiche, puisque l'important, c'est ce qui suit. Non, c'est pas ça. C'est ça. Du sport est arrivé avec sa zapette.
Ouais, pour rebondir directement sur les infos d'avant, hein, concernant le cinéma asiatique et Jackie Chan, il y a du Jackie Chan à la télé, et ouais, j'en ai repéré un sur 13ème rue lundi prochain, mais alors bon, c'est le Jackie Chan habituel, c'est-à-dire c'est une comédie, il y a de l'action, enfin bon, c'est très gentil, c'est une histoire d'amour en plus, hein, celui-là, c'est Jackie Chan à Hong Kong, ça s'appelle, une comédie de 99 de Vincent Kwok, avec outre Jackie Chan bien sûr, l'ananas c'est Shuki, et il y a également Tony Leung Chuwai, parce que l'autre il est plus.
Il est plus, c'est-à-dire.
Il est mort.
Ah bon?
Carwai s'est suicidé.
Carfai. Non, c'est, il s'est suicidé aussi.
Oui, il y en a un qui s'est suicidé.
Il n'arrête pas de se suicider en ce moment.
Il s'est jeté de sa fenêtre et tout.
C'est pas Leslie Cheung qui s'est suicidé? Les deux sont suicidés?
Il y a également Rich Ren, voilà, c'est ça, dans ce film qui est diffusé sur 13ème rue, c'est lundi prochain. À 20h50.
Et je crois que le titre original c'était Gorgeous, non?
Oh non, je sais pas. Laisse tomber.
Marqué.
Non, mais il en a fait tellement bon. Avant d'attaquer les séries proprement dites, hein, et les quelques nouveautés, il y a une nouveauté. Il y a deux inédits quand même, hein, cette semaine, c'est pas mal. Hein. Je vais m'attarder de nouveau un petit peu sur comédie parce que. Samedi dernier, cette semaine, comme par hasard, dans une soirée creuse, je suis tombé, j'ai décidé de regarder un petit film sympathique sur comédie. L'avantage, l'historique de la chaîne comédie est suivant, hein, c'est une chaîne qui a été au départ une filiale de Canal+, hein, et qui a fait un petit qui était cette chaîne comédie, hein, et c'était un des nuls, le gros, comment il s'appelle là,
Farrugia.
C'est Farrugia, donc qui était patron de comédie tout au départ à la création de la chaîne, hein, c'est une chaîne qui a quand même révélé les nouveaux comiques français qu'on connaît, ils sont pratiquement tous passés par comédie au départ dans la grosse émission, l'émission qui était culte, hein, qui avait lieu tous les jours de la semaine de 19h à 21h, on se mentit, enfin bon, bah, les horaires c'est pas trop important, et dans laquelle on a pu voir découvrir les Robin des Bois, beaucoup de gens comme ça, quoi. L'autre là, Dubosc, également Franck Dubosc, plein qui sont servis justement de cette chaîne comédie pour pouvoir passer dans cette émission. Là, l'avantage également au démarrage de cette chaîne, c'était la diffusion de séries comiques anglo-saxonnes, américaines ou anglaises. La diffusion était double, soit en version française, soit en version originale sous-titrée, donc il y avait un certain attrait. À partir d'un certain moment, c'était il y a environ 2 ans, on a laissé tomber, hein, carrément cette politique. On passait plus que les séries en version française.
Et pas que des séries d'humour d'ailleurs.
Ouais, pas que des séries d'humour en plus. En plus, il y a eu de moins en moins de nouveautés, c'est-à-dire, hein, de séries complètement inédites qu'on ne voyait pas ailleurs et qui étaient faites pour passer sur une chaîne telle que Comédie, mais bon, ok, hein, qui ont été repiquées par exemple par Série Club. Hein. Il y a qu'à regarder, ils se sont fait planter sur Third Rock from the Sun, Troisième Planète après le Soleil, qui était une série qui est un petit peu emblématique de cette chaîne Comédie. Mais la technologie fait que le monde est enfin meilleur sur Comédie à présent, grâce à cette espèce d'outil barbare qu'est la zapette élaborée, bien entendu, et qui permet d'accéder à la version multilingue sur certaines chaînes.
Ah,
et sur Comédie, on a enfin droit aussi à la version multilingue, c'est-à-dire pouvoir regarder son programme soit en version française, soit en version originale sous-titrée. Et de ce fait, c'est assez intéressant de regarder South Park en version originale, par exemple.
C'est largement plus intéressant.
South Park, il y a une grosse rafale de South Park, c'est dimanche soir sur Comédie à partir de minuit.
Et donc, t'as le choix entre combien de langues, français, américain?
T'as français, puis t'as américain, et la langue originale. Hein, je veux dire, après, tu peux pas te le regarder en arabe.
Par exemple, s'il y a un portugais qui arrive en France et qui veut écouter sa série en portugais.
Non, je crois que là, il est un petit peu. Il est un petit peu niqué, à mon avis, hein, me semble-t-il. Et la semaine dernière, donc, il faut savoir que chaque mardi, c'est le film américain, la comédie américaine, donc tous les mardis sur Comédie. Mardi dernier, il y avait un film, on va dire, relativement mineur, mais enfin, bonne comédie quand même, avec un casting qui tue de l'enfer, de la mort, que tu veux, quoi. Ça c'est l'histoire, c'était une histoire de fou, voilà, c'est ça le titre du film en français, avec Michael Keaton, avec Christopher Lloyd, avec Peter Boyle, et quand ça se passe dans un asile d'aliénés, enfin une histoire de fou furieux qu'on fait sortir pour aller voir un match de baseball parce que ça fait partie d'une thérapie et qu'on estime, et il se trouve embringué dans une histoire de meurtre, de flic ripou et tout, interprété par Danny Aiello et James Remar. Donc ça rehausse un petit peu le tout en version originale. Ça donne un film assez plaisant, on va dire, hein, une comédie, on va dire, les comédies américaines mineures qui n'ont pas fait péter l'audimat, mais avec des bons morceaux de bravoure dedans, tout bien, et bon, surtout des interprétations qui valent leur pesant de cacahuètes. Michael Keaton est excellent, Christopher Lloyd, c'est même pas la peine d'en parler, il est toujours excellent, Peter Boyle, magnifique, enfin bon, excellent, quoi, de toute façon, quoi. Et donc, le film de cette semaine sur comédie, Le mardi prochain, c'est également un film un petit peu de la même époque qui s'appelle Parle à mon psy, ma tête est malade. Une comédie de 88 de Michael Ritchie avec Dan Aykroyd, Walter Matthau et Charles Grodin, donc également du poids lourd, hein, en ce qui concerne le casting. Et bon, comme par hasard, ça se passe un petit peu bizarrement dans le même monde, hein, c'est-à-dire un mec qui est interné dans un asile d'aliénés qui réussit à s'évader et qui arrive à Beverly Hills et qui devient psychiatre, quoi, tu vois, enfin qui se fait passer par un psychiatre. Voilà, ça c'est mardi prochain, donc sur comédie. Le moins quand même de comédie, c'est que bon, c'est toujours très intéressant de pouvoir se remater une énième fois la série Friends en version originale, puisque maintenant on peut le faire, alors qu'avant Comédie ne diffusait que la version française de Friends. C'est un peu gênant, quoi. Par contre, ce qui est un petit peu plus con, c'est qu'il diffuse également une excellente série britannique qui s'appelle My Tribe, et là, eh bien, pas de version multilingue possible, on se tape que la version française. Ça, c'est vraiment à la décharge donc, de la chaîne Comédie. Voilà. Les séries à présent, avec la grosse nouveauté de cette semaine, c'est du Canal+, et ça sera jeudi prochain, c'est la série de Steven Bochco.
Oh yes.
Qui s'appelle Over There. Over There, dans l'imaginaire américain, c'est ce qui se passe de l'autre côté, là-bas, très loin. En fait, c'est la guerre qui a lieu là-bas. Et c'est la série, c'est la première série. Il va y en avoir d'autres, hein, très prochainement d'ailleurs. C'est la première série qui parle ouvertement de la guerre du Golfe, la guerre en Irak, par la guerre du Golfe, la guerre en Irak, hein, c'est-à-dire un événement très récent de l'histoire de l'Amérique et du monde. Et que Steven Bochco s'y attaque un petit peu. Pas Steven Bochco tout seul. Il faut savoir que Bochco est le producteur, parce que bon, bah maintenant avec sa maison de production et avec le crédit qu'il a amassé, bien qu'il ait quelques gamelles quand même derrière. Ouais. Bon, il y a la loi de Los Angeles. Il a commencé par ça. Ensuite, il y a Hill Street Blues. Le gros succès, c'est bien entendu New York Police Blue. Et mais après, il y a eu quand même des séries. Je vous ai parlé de Blind Justice qui a démarré il y a 3 semaines, 4 semaines, qui a été arrêté au bout d'une saison parce que bon bah ça fonctionne pas, hein, vraiment à la sur la durée, la série ne fonctionne pas. Ronald Dar est un petit peu fallo. Bon, hein, l'idée de base est intéressante, mais après ça tient pas trop la distance. C'est un petit peu dommage. Donc Bochco, bon bah dans le télécable de cette semaine, il parle carrément de la star déchue de la production, Steven Bochco, tu vois. Alors que bon,
faut
placer un petit peu les choses dans leur contexte quand même. Hein. C'est quand même Bochco, merde, faut pas déconner, quoi. Avec Over There, donc c'est surtout écrit et conçu par un autre mec qui s'appelle Chris Girolmo, qui est un scénariste qu'on a connu pour avoir fait le scénario de Mississippi Burning. Que je me rappelle que c'est un film de comment il s'appelle là, Costa Gavras, me semble-t-il, hein, mais je voudrais pas me planter. Et dans Over There, eh bien, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça va raconter l'histoire, le quotidien, on va dire, des petits gars qu'on a envoyés là-bas en Irak, mais également de leurs familles qui sont restées au pays, hein, avec toujours l'espèce de balance entre les deux. Il y a 13 épisodes dans la saison 1, on sait que c'est la seule saison de toute façon, hein, là ça a pas marché, donc ça a fait un peu tâche, quoi.
Et puis quand même les médias diffusés, donc qui sont sous la coupe de la FCC en ce moment, marchent un peu dans les petit pied des républicains, donc peut-être
ça a été diffusé, ça n'a pas été diffusé sur un gros network, c'est CineFX, FX Network, donc c'était
c'est une filiale de Fox.
C'est une filiale de Fox, mais enfin bon, c'est pas Fox, c'est pas le gros truc.
Enfin, à noter que Fox mais... Entertainment est assez critique comparé à Fox News, qui eux sont pro-républicains à mort. Fox Entertainment est très critique. Hein,
ouais, ouais. Enfin, il n'en reste pas moins que bon, bah, ces 13 épisodes seront diffusés donc sur Canal+ à partir de jeudi prochain, 21h35. Dans les rôles principaux, on a Kirk Jones, qu'on va peut-être voir dans la série Blade, Blade, Wesley Snipes et tout ça. Les, hein, la série est en développement. Alors si ça se fait, bah, il y aura Kirk Jones pour interpréter le rôle de, tenu par Wesley Snipes dans la trilogie. Eric Palladino, qu'on avait déjà vu dans IR, hein, c'est le toubib qui arrive à la saison 7, puis c'est son saison 8, une tête de con, il, c'est un casse-couille.
C'est le chauve. Bon, il a pas... Docteur Romano là, c'est pas lui.
Non, c'est pas Romano. Ah. Non, non, non. Oh là, Romano est vachement humaniste à côté. Lui, c'est le jeune péteux, quoi. Tu vois, jeune péteux qui vient, je sais tout et tout. Il s'engueule à Goran Visnjic tout le temps. Enfin bon, il y a également Luke McFarlane et Keith Robinson. Donc c'est Over There et c'est à partir de jeudi prochain, 21h35 sur Canal+. Après The Shield. Docteur House, c'est le gimmick qui a remplacé Nip Tuck, quoi, tu vois. Avant c'était Nip Tuck tout le temps, maintenant c'est Docteur House toutes les semaines. Avec quand même, bon, je reviens un petit peu sur le deuxième épisode de mercredi dernier, parce que là, quand même, pour diffuser un épisode comme ça, il faut se placer. C'est-à-dire pour nous, ça nous paraît évident de diffuser des histoires pareilles, mais il faut se replacer dans les États-Unis où les pro-choice, les pro-life sont vraiment très très puissants, hein, en dynamite des cliniques.
Parce et que on se montrer... fait pas poursuivre, ouais, c'est ouais, ça qui est
parce
énorme.
Parce que montrer dans le deuxième épisode l'histoire d'une nana de 12 ans qui a des problèmes, qui est vachement malade et tout. Alors bon, c'est toujours un petit peu la même histoire, hein, le même schéma scénaristique dans un épisode de Dr. House. Hein, il y a quelqu'un qui débarque à l'hosto, qui a des maladies, qui a des symptômes, ils essayent des traitements, ça marche pas, rechute, tac, tac. Et comme ça, pour arriver à la fin, où on arrive quand même à trouver la solution ou pas. Parce que des fois, ça arrive que les patients crèvent quand même, quoi. Mais enfin bon. Et dans le deuxième épisode, là, carrément, bah, Lana a 12 ans, quoi. Au bout d'un moment, on se rend compte bah, qu'elle est enceinte, et ben, qu'on peut de toute façon pas garder le gosse, donc il va falloir avorter. Et là, bon, bah, voilà, scène d'avortement et tout. Donc, je vais te dire que chez nous, ça peut passer, parce que bon, ben, bon, d'accord, on a une culture française de l'avortement qui est un petit peu évolué, on va dire, hein. On a quand même 30 ans dans la gueule dans cette histoire-là. Alors que chez les Ricains, c'est pas encore tout à fait digéré, cette histoire. Et bon, bah là, quand même, ils font très fort, diffuser des trucs comme ça, vraiment. Je te passe le langage et tout, enfin bon, les expressions, enfin, des fois assez ordurier, tu vois. Oh, tu m'emmerdes.
Je tiens à parler, il y a eu un film tourné dans les années 50 avec Jean Gabin sur l'avortement. Et on en a parlé hors antenne. Avec notre invité début du mois de mai, Frédéric Boilet, qui parlait de la censure au Japon et qui disait que ils ont carrément tout censuré parce que voilà, la naissance, ils peuvent pas le montrer.
C'était une naissance, pas un
c'était
avortement.
Une naissance, c'était pas ouais. Un avortement, mais c'était l'accouchement sans douleur. Ouais. Voilà. Donc, mais comme quoi, il y a encore beaucoup de boulot.
Ouais, parce que bon, bah, il faut savoir qu'en France, on en arrive même, ça a été diffusé la semaine dernière sur une chaîne hertzienne, hein, c'est l'histoire de l'une des nanas qui a défendu justement l'avortement, Gisèle Halimi. Il hein, y a eu un autre téléfilm il y a deux semaines qui parlait également de cette histoire, qui parlait vraiment très très bien. Hein, donc, si en France c'est rentré dans les mœurs, c'est pas de problème et tout, on peut mater des trucs, enfin, quand même réservé à un public averti relativement adulte, on va dire. Là, par contre, aux États-Unis, ça a pu quand même faire vachement mal. Ouais, c'est pour ça que c'est diffusé assez tard le soir, hein, Dr. House, de l'autre côté des États-Unis. Et mercredi prochain, bah, ce sont les deux derniers épisodes de la saison 1. Avec deux épisodes qui s'appellent Cour Magistral et Le Choix de l'Autre, dans lesquels on verra apparaître Cella Ward. Et Carmen Electra pour faire remonter l'audience. Non, Dr House, donc, mais enfin, attends, en face de Hugh Laurie, de toute façon, quoi, je crois qu'elle a du souci à se faire, hein, la petite Carmen. C'est donc Dr House, une des meilleures séries actuellement diffusées sur la télé française, hein, toute chaîne, tout câble, satellite confondu. C'est mercredi prochain à 20h50, deux épisodes sur TF6. Sinon, de la rediff, t'en veux, t'en voilà. Et de la bonne, hein, parce que ça, c'est vraiment de la bonne. Par contre, j'ai été dégoûté quand j'ai appris qu'il y avait déjà 4 saisons, tu vois. On en a vu qu'une. Alors, Canal Jimmy, je sais pas ce qu'ils ont foutu, quoi. Mais enfin, bon, ils nous ont diffusé la première saison de The Wire, sur Écoute, cette excellente série initiée par David Simon. David Simon, c'est le mec qui était au départ journaliste et qui avait passé un an avec les flics de Baltimore et en avait tiré un bouquin qui s'appelait Homicide, Life and Death in the Streets. Enfin bon, voilà, un roman tiré de la vie des inspecteurs de Baltimore, des flics qu'il avait côtoyés pendant un an au quotidien comme ça, et raconter leurs histoires. Alors tout, vraiment les trucs trash, pas ce qu'il y a dans les films généralement, enfin des trucs, bon, tout et n'importe quoi, le quotidien du keuf. Il avait fait, après ça a donné la série Homicide, qui a quand même duré 10 saisons, avec un certain Tom Fontana, qui nous a fait Oz par la suite, avec un certain Paul Attanasio, qu'on retrouve à la production de Dr House. Ça n'a rien à voir, mais bravo. Ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler. David Simon, qui avait également fait la mini-série, qui avait été archi primée, qui s'appelle The Corner, une mini-série en 6 parties qui était excellente, hein, sur la dope, sur le monde de la drogue dans Baltimore toujours, hein, parce que bon, bah, c'est de cette ville dont il est originaire. The Wire donc a déjà fait 4 saisons et le Canal Jimmy n'en a diffusé qu'une, la première, et là bah, il nous rediffuse la première saison. Enfin, comme il y a 13 épisodes et que vraiment c'est une série qui n'est pas tellement une série d'action, hein, The Wire, hein, en fait c'est le quotidien, le flic qui sont là et qui vont essayer de démanteler un gang. Au départ ils savent pas dans quoi ils tombent et ils arrivent dans un quartier, ils vont commencer à mettre sur écoute des trucs, à essayer des infiltrations et tout ça, et ça dure le temps de 13 épisodes, c'est-à-dire d'une saison complète, hein, pour arriver à la fin de la première saison. Alors la fin de la première saison, c'est bon, t'es là, t'es écouté, quoi, tu dis non mais c'est pas vrai quoi. En fait, t'es dans le même état d'esprit que les mecs qui terminent leur enquête. Chaque saison en fait est une enquête à part entière, quoi, et qui dure 13 épisodes. Donc là, bah, petite leçon de rattrapage en ce qui concerne cette excellente série. Hein. Je veux dire, scénaristiquement, la manière dont c'est tourné, la manière dont c'est construit, c'est bon, laisse tomber. Ces mecs-là peuvent faire des films quand ils veulent. Ils seront de toute façon vachement plus crédibles. Je cite pas de nom. C'est rediffusé donc sur Canal Jimmy demain soir, tous les dimanches soirs, donc à partir de 20h45. Ah putain, il y a encore du boulot, hein.
FMR 13h08, supplément week-end, du sport, régler compte avec la télé.
L'inédit de la semaine à présent, et ça c'est du haut de gamme, et comme disaient les Américains, quelle est la meilleure télé, quelles sont les meilleures séries, c'est les Anglais, avec Hercule Poirot qui débarque.
C'est pas du sport qui disait ça?
Non, c'est le Ricain également, hein, tout le monde aussi.
Ouais, tout le monde le dit.
Hercule Poirot donc qui débarque sur TMC, TMC qui bon a l'avantage sur les chaînes de France Télé, hein, en particulier France 3, qui est bien introduite quand même dans la série britannique, hein, on va dire ce qui est quand même, hein, c'est quand même eux qui passent un max de séries britanniques, mais souvent un petit peu dans le désordre, n'importe comment, et puis bon, des heures indues, on va dire, hein, soit le dimanche à 2h d'après-midi quand tu fais la sieste, soit à 11h du soir quand t'es en principe au lit, parce que tu te lèves le lendemain, quoi, tu vois, donc c'est pas évident non plus. Là par contre, pour Hercule Poirot, c'est le traitement un peu différent, parce que c'est vraiment de la série de prestige. C'est vraiment super bien foutu. C'est un épisode de Hercule Poirot, ça a coûté aussi cher qu'un film de daube, tu vois quoi. Et pourtant, bon, on voit la différence. Vraiment, on voit vraiment la différence. On en est, je crois, à la 10e ou 11e saison. Enfin, c'est plus des saisons parce que ils tournent, on va dire
3-4 épisodes. Ouais.
4 épisodes par année, hein, des fois 5 ou 6 quand ça marche bien. Ça dépend, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de. Il y a deux sortes en fait d'adaptation. L'adaptation des nouvelles qu'a écrite. Généralement, c'est des nouvelles qui sont adaptées, donc des histoires plus courtes. Et donc les segments sont plus courts, sont des segments qui font 55 minutes, hein, segment habituel pour une série. Mais des fois, ce sont des histoires plus longues, qui sont tirés de ces romans, des romans donc d'Agatha Christie. Et là, ben c'est donc la durée d'un long métrage, 1h30, 1h40. Là, il s'agit du mystère du train bleu qui est tout récent. Ça a été tourné en 2005, l'année dernière. Donc, et ça a été tourné en France, à Menton, près de Cannes, sur la Riviera. Et pour ce premier épisode d'Hercule Poirot, nouvelle saison inédite donc en France. eh bien, il y a quand même des invités de prestige avec Elliot Gould dans ce Mystère du train bleu, Jaime Murray qu'on a vu, elle joue un rôle, un des trois rôles principaux dans cette série qui est pas terrible, qui s'appelle VIP Les Arnaqueurs là. Je sais pas si. Il y a également Lindsay Duncan qu'on a vu dans Star Wars et qui sera également dans le prochain Peplum dont je vais vous parler à fond les manettes qui s'appelle Rome, qui sera bientôt sur les écrans de Canal. C'est vendredi prochain à partir de 20h45, donc prime time quand même normal, hein, c'est du Hercule Poirot quoi, faut pas déconner, hein. C'est maintenant produit par David Suchet qui interprète le rôle et qui a une, enfin disons il s'est pris dans le truc à fond les manettes et bon vraiment il le fait bien.
Il a vraiment la tête de l'emploi,
il y a pas de problème, hein. Maintenant on dit Hercule Poirot, hein, c'est David Suchet, hein. C'est comme Sherlock Holmes, hein, c'est Jérémy Brett. Bien entendu, le regretter. Hein. Et par contre, je suis tombé sur une nouvelle version de Sherlock Holmes. Là, je vais essayer de me renseigner parce que là,
Jeremy Brett, c'est le Tyrell dans Blade Runner.
Une nouvelle version de Sherlock Holmes que j'ai entreaperçu sur la BBC. Enfin, je suis tombé sur la fin, quoi. Donc, Sherlock Holmes interprété par Rupert Everett. Et ça avait l'air pas mal du tout. C'est con, je suis tombé sur les 10 dernières minutes. Bon, bah, voilà, hein, c'est con, enfin, bon. Mais là, c'est pas mal. Alors, bah, peut-être prochainement, hein, on sait pas. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est, si c'est une série, si c'est un téléfilm, que dalle. Donc il va falloir que je me renseigne un petit peu. À noter également que sur TMC on vous rediffuse, on l'a déjà vu, hein, le meurtre en Mésopotamie, hein, toujours avec David Suchet, c'est lundi à 22h25, toujours sur TMC de toute façon. Des rediffs de séries, une série qui se laisse regarder, mais comme c'est sur la TNT, donc y a pas mal de gens qui aura peut-être l'occasion de découvrir cette série qui s'appelle Total Recall 2070. La série interprétée par Michael Easton.
Assez étonnant, rien à voir avec le roman ou le film, c'est vraiment très étrange.
La base est la même, c'est-à-dire que on situe les trucs dans le même endroit avec le même genre de personnage, mais l'histoire n'a rien à voir du tout.
Complètement oubliez complètement.
C'est plus l'agence Recall qui avec un mec qui sait pas s'il est si fantasme ou si c'est la réalité.
Il y a un peu de ça à travers la personnalité du personnage principal qui est interprété par Michael Easton, hein, qui joue le rôle d'un
détective,
un inspecteur, un détective, on sait pas trop, hein, parce que
a priori c'est une cité où il n'y a pas de meurtre, où il n'y a rien et où ils sont entourés de personnes de synthèse, enfin c'est des robots qui
il y a des androïdes, hein, carrément, ouais. Et donc Michael Easton fait lors du premier épisode, hein, des deux premiers épisodes, puisque le pilote il fait un et deux, partie 1 et partie 2, il apprend à faire copain avec son partenaire Carl, interprété par Carl Pruner, qui est un androïde, quoi. Donc il y a également Nick Mancuso qui joue un excellent rôle dans Total Recall 2070, c'est pas mal, hein, c'est Nick Mancuso, hein, Stingray, Matrix anglais, hein, la série anglaise Matrix, hein, pas le film, rien à voir avec le film.
Il y avait déjà Carl Moss dedans.
Comment ?
Il y avait déjà Carrie Anne Moss dans Matrix, la série.
Ouais. On notera que c'est sur France 4, donc là, c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est ce soir à partir de 22h45, donc Total Recall 2070.
Sinon, c'est marrant parce que c'était pas passé sur Europe 2 TV avant.
Oh, c'est passé sur.
C'est passé sur Canal aussi, non ?
Non. Sur une chaîne du câble satellite, mais j'arrive pas à me souvenir laquelle. Série Club, me semble-t-il, peut-être.
Bon. D'accord, ok.
Sinon, Dead Like Me, la saison 2 sur Canal Jimmy, c'est tous les mardis. Hein. J'ai oublié de vous en parler la semaine dernière, donc je suis impardonnable. Je vous en parle cette semaine. Hein,
c'est une série assez amusante. Hein.
C'est assez rigolo à voir. C'est pas mal, un concept très original. Et puis, bon, la personnalité, je veux dire, le jeu de l'actrice principale, Ellen Moot, il fait beaucoup à mon avis, hein, et c'est vachement bien traité. Il y a également Mandy Patinkin, hein, dans le rôle de l'ange gardien un petit peu, parce que le trip c'est que la personnage principale est morte mais elle continue à agir dans le monde des vivants, quoi. Et donc ça peut donner des situations drôles ou pas franchement drôles, des fois très dramatiques, mais bon, parce qu'il y a le destin qui veut ça, tac tac et tout, alors on peut intervenir un peu, pas trop, c'est assez rigolo, mais seulement elle est morte, mais seulement elle se comporte comme si tu la vois, comme elle est avec toi, c'est pas un spectre, tu vois, donc c'est là, c'est c'est très casse-gueule, mais quand ça fonctionne, c'est vraiment impeccable. Donc la saison 2, c'est tous les mardis sur Canal Jimmy. Voilà, pour les séries, c'est pratiquement tout. Et là, j'ai encore toute une tapée de trucs, quoi. Vous rendez pas compte, les gars, hein, mais de toute façon, il n'y a que du foot pratiquement, quoi. Alors, c'est pas grave. Un petit peu de Planète quand même, parce qu'on parle pas assez souvent de documentaires à la télé. Et là, il y en a quand même de bien, quoi, sur Planète. Avec lundi soir à 20h45, un documentaire qui s'appelle Le crime et la plume, et qui est en fait une histoire vraie de Franck Serpico. C'est sur Planète à partir de lundi 20h45. Mercredi 20h45, attentat suicide, l'histoire des attentats suicides. Avec, c'est initié par un certain Robert Baer, hein, que j'avais déjà vu dans l'excellent documentaire en plusieurs parties de William Carell qui s'appelle L'histoire de la CIA. Parce que Robert Baer est un ex-agent de la CIA. Et en fait, c'est le mec qui s'est barré quand Bush est arrivé au pouvoir, quoi. Et il s'est barré, c'est-à-dire il a laissé tomber. Il a écrit un bouquin où il disait bon, attention, l'histoire de la deuxième guerre du Golfe, enfin la deuxième guerre du Golfe, l'histoire
d'Irak et tout,
c'est du pipeau. Ils ont monté tout ça. Enfin bon, il a bien balancé quand même. Et là, bon bah ok, comme maintenant il est à son compte, on va dire. Eh ben, il est devenu un petit peu visible, donc attentat suicide, donc l'historique, c'est avec Robert Baer. Enfin bon, il est quand même relativement sérieux comme mec, il a l'air assez équilibré, donc c'est pour ça que je vous le conseille. C'est mercredi prochain, ça va à 20h45 sur Planète. Et le lendemain soir, 20h45, ça peut être intéressant aussi, quoi. Les grandes erreurs militaires, avec tout d'abord
la ligne Maginot.
un documentaire en 6 parties. Donc la première partie s'appelle Les erreurs des généraux. Ça concerne Montgomery et MacArthur, dans les généraux de la Deuxième Guerre mondiale, et le nombre de mecs qu'ils ont envoyés au massacre à fond les manettes et tout. Enfin moi, tu sais. Genre ils sont plantés, hein. Montgomery, c'est la bataille d'Afrique, Birakeim, ils sont plantés.
Max
qui s'en fait dégommer et tout, MacArthur dans le Pacifique, rappelez-vous Iwo Jima.
Ah lui on l'appelait le général sans le général de la mort.
Voilà donc et la deuxième le deuxième épisode après le premier, donc jeudi prochain, ça concerne la bataille de la Somme, rappelez-vous, en 1916 et tout.
Ah, c'est beau ça, le chemin des dames.
Eh ouais, la tranchée des baïonnettes. Il y a également vendredi soir sur Planète un documentaire, une série, une mini-série hein, en 6 parties qui s'appelle Super Plante. Rien à voir avec le reste. Hein. La première partie, donc premier module de 50 minutes s'appelle Le cri des arbres tueurs et ça concerne les acacias. Les acacias qui peuvent se révéler très meurtriers si ils trouvent que leur environnement commence à devenir un petit peu stressé, quoi. Ben, carrément, ils se développent et puis ils te foutent des pointes partout, quoi, pour bien t'emmerder. Et le deuxième documentaire s'appelle L'heure du bambou et qui où on examine un petit peu la disparition des plantations de bambou et dans plusieurs régions du monde. Hein, donc, ça le fait pas, quoi. Non, ça le fait pas. Et sinon. Sci-Fi Channel, on en parlait à propos de ton de ta BD là. Hein,
Oui, de la BD qui s'appelle Orbital Cicatrice.
Voilà, voilà. Sci-Fi Channel qui vous propose donc une soirée à thème, c'est vendredi prochain. Et ouais, je l'ai
sous les yeux
quoi,
avec le post-it.
Et c'est une soirée qui s'appelle une soirée The Blob. Alors le Blob, il y a eu plusieurs versions. Il y a la version la plus connue, enfin pour les jeunes, c'est celle de 88 qui sera diffusée en première partie de soirée hein, de Chuck Russell. Chuck Russell qui a quelques années plus tard a fait un film qui a un petit peu marché, hein, qui s'appelle The Mask, avec Kevin Dillon dans le rôle principal. Donc ça c'est à 20h50 vendredi prochain sur Sci-Fi Channel, mais c'est suivi à 22h25 par The Blob, l'original, le vrai. Le vintage, celui de 58 avec Steve McQueen, mon gars.
Eh oui, à l'époque tout jeune.
À l'époque tout jeune, hein, là, c'était un de ses premiers rôles. Hein, tu peux y aller, hein, un film de Irving Yerworth. Donc il y a eu une autre version de The Blob qui a été filmée dans les années 70, hein, qui était pas mal aussi, vraiment rigolo, vraiment excellente. Donc c'est la soirée The Blob vendredi prochain sur Sci-Fi Channel. Et sinon vite fait une petite sélection de films de guerre là, parce qu'on parle pas assez souvent des films de guerre. Alors il y en a quelques tout au long de la semaine. Paris Première demain soir diffuse un des meilleurs films de guerre du monde et c'est un un des Spielberg qui a le moins marché, c'est 1941. Et pourtant, c'est vraiment.
Il est à hurler de rire.
C'est cartoonesque. C'est cartoonesque. C'est Tex Avery-esque. T'as un casting qui tue, quoi. Vraiment, avec Robert Stack en général, qui veut regarder Bambi à la télé. Enfin, vraiment des trucs hallucinants. Ah,
c'est absolument génial.
Avec John Belushi encore vivant. Enfin bon, laissez tomber. Hein, de toute façon, c'est si vous n'avez jamais vu ce film-là. Allez-y, en plus c'est en version
Hollywood
multilingue, c'est en version multilingue, c'est sur Paris Première demain soir à 23h05. Sinon lundi, un film qui est pas mal, on va dire, hein, qui vaut pour la confrontation entre Denzel Washington et Gene Hackman, c'est USS Alabama, le Tony Scott de 95.
Il est pas mal, hein.
Avec vous l'avez reconnu dans le film. Alors à l'époque non, il n'était pas encore Tony Soprano, James Gandolfini. Pourtant il est également dans USS Alabama. Guerre, oui, sur les champs de bataille, mais guerre contre le crime. Et c'est normal parce que j'essaie toujours de le placer celui-là. Action Jackson.
Encore.
Action Jackson sur AB1 mardi prochain à 20h45.
C'est abusé là.
Ah ouais, c'est abusé. Mais attends, parce que le suivant, tu vas voir que c'est abusé à fond avec y a pas de Michael Dudikoff. Avec les hommes de Sa Majesté, une coproduction américaine, allemande et autrichienne. Hein, l'histoire de
travestis.
Ouais, de travestis qu'on envoie.
C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire vraie. On a envoyé des travestis se faire passer pour des femmes.
Ouais, des mecs qui sont travestis en nana pour aller derrière les lignes ennemies. C'est interprété par Matt Leblanc, donc Friends, Joey. Il y a également Eddie Izzard, donc c'est pour ça que c'est une coproduction.
Et Joey, pour une fois, montre autre chose que ses fesses dans un film. Bon.
Et c'est mercredi prochain sur RTL9 à 22h30. Sinon, là, il y a du très très grand. Là, c'est un des grands classiques, hein, du film de guerre. Et pourtant, ça. On voit pas de guerre, hein, dans ce film, mais bon, ça se passe pendant la guerre. C'est Stalag 17, le Billy Wilder de 53 avec William Holden, avec Otto Preminger. Enfin bon, ça c'est c'est du très bon, hein, ça. TPS Ciné Club jeudi prochain 21h. Et je termine par un truc zarbe que je sais pas ce que c'est. Alors bon, c'est peut-être parce qu'il y a des interprètes qui généralement sont assez bons. Ça s'appelle Chung Kai, le corps des survivants, hein, une histoire de soldats anglais, américains et japonais qui se retrouvent sur une île, et puis bon, enfin bon, mais pendant la guerre, tu vois. Alors, et puis bon, ils ont plus rien à bouffer, ils savent plus ce qui se passe. C'est interprété par Robert Carlyle. Excellent. Et Kiefer Sutherland sur Ciné Frisson.
Ah bah ouais.
Jeudi prochain à partir de 20h45 avec la signalétique -10. Alors faites attention, hein, quand même. Voilà, en ce qui concerne la télé, ça va être à peu près tout, hein, mon petit.
Voilà, c'était Supplément Week-end, émission numéro 69, avec Thomas à la réalisation, Xavier Dusport en co-animation. Si vous avez manqué le début de l'émission, le résumé, je vous prie.
J'ai pas eu le temps de faire le procès-verbal aujourd'hui, mais tu exagères parce que la réalisation on l'a partagée à deux, puisque là ça fait au moins une demi-heure côté derrière, le côté obscur là.
Une heure en fait.
Ouais, une heure, voilà. Ouais, mais c'était l'émission 69 et on a inversé les rôles, Xavier et moi. On a eu beaucoup de séries anglaises et on a eu des BD, du cinéma asiatique et une édition DVD surprise.
Voilà, et ceci dit, eh ben, vous pouvez réécouter l'émission dans son intégralité, de même que ses 68 petites copines. Elles attendent
déjà
au frais, tranquillement, sur le froid, sur un fond bleu, sur le site d'Askritch.net. Mais c'est très simple, chercher Supplément Week-end, FMR, sur le net, vous tombez sur plein de sites qui nous reprennent en fait. Et quand même, vous êtes plus d'une centaine à nous écouter régulièrement et on a des pointes pour certaines émissions, donc ça nous fait plaisir. Voilà, la suite des programmes sur le direct sur Radio FMR, pour ceux qui nous écoutent en FM ou sur le stream, ils vont retrouver, ça c'est du sport. Le temps qui revienne en 15h en mode progression, 16h Big Bang, 17h vie d'ordure, 18h on est chez nous, 20h Last Hétéro Experience. J'ai fait une bêtise, non, c'est normal. Et 21h30 Squid Sky et 23h Breakbeat Experience. Je m'étais mis en pré-écoute. Pendant ce temps, quand même, puisqu'on est des vrais professionnels, et ben on se fait le plaisir de tasser les feuilles. Voilà. Je crois qu'on vous monte la scène un jour. Thomas, tu me l'avais promis.
Oh, ça va, j'ai du retard dans les illustrations, d'accord. Mais vous l'aurez.